Le journal Adia Chipoukou.
Les titres de cette édition, deuxième jour du séjour du chef de l'État en Angola, une journée consacrée à la visite des wagons de la Gécamine, abandonnée depuis plusieurs années à Benguela, au sud de Luanda. Au sud Kivu, la 10e région militaire annonce avoir mis en deux routes le groupe d'insurgés cantonné depuis plus d'une année dans les hauts plateaux de Minembwe. Le commandant de cette région militaire appelle tous les autres insurgés à rejoindre le centre de brassage. Inauguration ce matin à Kinshasa du bureau régional de la Banque africaine pour le développement. Pour le président de cette institution financière, cela devrait permettre de renforcer la coopération avec les acteurs du développement des deux Congos. Bienvenue dans cette édition. Joseph Kabila poursuit son séjour en Angola. Le chef de l'État congolais et son homologue angolais se sont envolés depuis hier après-midi pour Benguela, au sud de Luanda. Le numéro 1 de la RDC visite les wagons de la Gécamine, abandonnés il y a plusieurs années, en compagnie de 5 ministres. C'est une des conséquences des accords signés hier entre la RDC et l'Angola, notamment celui de transport et communication. De notre envoyé spécial de Luanda, Emmanuel Imbanda.
La délégation gouvernementale congolaise doit procéder à une évaluation de l'état des wagons de la SNCC, Société Nationale de Chemin de Fer à Benguela, et de l'immeuble de cette entreprise à Lobito. Une visite du tronçon réhabilité de chemin de fer de Benguela est aussi prévue. Cette ligne de chemin de fer est d'une grande importance économique pour le Katanga et le Congo. Elle servait à l'exportation du cuivre et autres produits de la Gécamine et aussi à l'importation des produits pour la Gécamine et la province du Katanga. Ce trafic est interrompu depuis une trentaine d'années à cause de la guerre en Angola. Lors des travaux de la dernière commission mixte à Luanda, la partie congolaise a rappelé à la partie angolaise les 49 wagons de la SNCC, l'immeuble de la SNCC à Lobito et la créance de près de 4 500 000 dollars américains. La partie angolaise a donné des assurances à la partie congolaise. Une réunion d'experts angolais sur ces questions se tiendra prochainement. Les experts congolais, eux, doivent visiter le port de Lobito fin août prochain. Luanda, Emmanuel Imbanda Lokenga Lochitimbi, Radio Okapi.
Les défenseurs des droits de l'homme ont sit-in cet avant-midi devant le palais de la nation à Kinshasa Gombe, exactement 2 ans après l'assassinat de Pascal Kabungulu, défenseur des droits humains à Bukavu. Les manifestants exigent, entre autres, la réouverture du procès initié à cet effet. Mimi Ngumba est sur place au palais de la nation. Elle revient sur les revendications de ces ONG de droits de l'homme.
Avec des banderoles sur lesquelles on peut lire « Pas de 5 chantiers dans l'impunité » et munis des photos de feu Pascal Kabungulu, plusieurs dizaines de manifestants représentant plus de 50 ONG de droits de l'homme sont venus remettre au président de la République un mémorandum reprenant leurs desiderata. Pour le moment, ils sont regroupés à une centaine de mètres de la présidence. Dans ce document, ils exigent la réouverture du procès sur l'assassinat de Pascal Kabungulu. Ils demandent également la délocalisation du procès de Bukavu à Kinshasa pour des raisons de sécurité. Enfin, les manifestants recommandent la mise en place d'une loi portant promotion et protection des droits de l'homme en RDC. Selon les représentants de ces ONG, la manifestation de ce jour constitue un moyen de dernier rempart, les précédents ayant échoué. Malgré l'absence du chef de l'État au pays, les manifestants espèrent trouver gain de cause à leurs revendications car, déclare-t-il, l'institution présidence n'a pas bougé. Pour rappel, le procès assassinat Pascal Kabungulu, défenseur de droits de l'homme à Bukavu, avait été suspendu en décembre 2006. Pour cause, le tribunal s'était déclaré incompétent. Depuis le palais de la nation à Kinshasa Gombe, Mimi Ngumba Mulongo, Radio Okapi.
Encore une réaction après le verdict sur le procès Yves Kawa en Ituri. Les avocats de la partie civile se disent consternés par la décision d'acquitter le leader de l'ancienne milice PUSIC, le Parti pour l'Unité et la Sauvegarde de l'Intégrité du Congo. Yves Kawa a été poursuivi pour crime de guerre, crime contre l'humanité et participation à un mouvement insurrectionnel. Aujourd'hui, la partie civile veut porter l'affaire au niveau des instances judiciaires nationales à Kinshasa et même au niveau de la Cour pénale internationale après le verdict prononcé en deuxième instance. Maître Raoul Konga, avocat au barreau de Kinshasa Matete, joint de Bounia par notre confrère Jean-Paul Basila.
Néanmoins, nos impressions se résument à un sentiment de consternation, un sentiment de désolation, un émoi généralisé qui caractérise tous les habitants de l'Ituri actuellement, dès l'annoncé de cet arrêt qui a quitté le prévenu Kawa. Aujourd'hui, déjà, tous les avocats, nous nous retrouvons à notre étude pour saisir vite la Cour suprême de justice par voie de pourvoi en cassation ou alors une requête en révision ou en annulation de cet arrêt parce que nous estimons qu'effectivement la Cour militaire de la province orientale n'a pas dit le droit. Tout comme s'il arrive que la haute cour militaire confirme cet arrêt, nous allons soumettre tous les éléments que nous avons au bureau du procureur près de la Cour pénale internationale qui va apprécier si oui ou non cet arrêt n'a pas été rendu sur base de certaines considérations politiques.
Sachez que la société civile de l'Ituri salue, elle, l'arrêt rendu par la cour militaire de Kisangani et demande la libération d'autres seigneurs de guerre de l'Ituri détenus à Kinshasa, parmi eux Floribert Djabou, ancien leader du FNI. Restons en Ituri où l'on apprend que 4 hommes armés ont investi dimanche soir la résidence du chef d'antenne de Radio Okapi aux environs de 18h heure locale. Les assaillants ont réussi à le ligoter avec son gardien sous la menace de leurs armes. Après plus d'une heure et demie de séquestration et de menaces, ils ont emporté un peu d'argent et d'autres matériels, signalant que la résidence du fonctionnaire visité se situe dans un secteur normalement très sécurisé de la ville de Bounia, à côté du camp du contingent marocain de la MONUC. À la suite de cette agression, la MONUC Bounia a renforcé ses mesures de sécurité. Direction Sud-Kivu, la 10e région militaire annonce avoir mis en déroute le groupe d'insurgés cantonnés depuis plus d'une année dans les hauts plateaux de Minembwe. Ce groupe commandé par des officiers réfractaires au brassage avait toujours posé des conditions pour rejoindre les rangs des FRDC, notamment l'érection de Minembwe en territoire. Pour rappel, le 16 juillet dernier, ces insurgés auxquels s'était joint le groupe de 47, jadis fidèle au colonel Jules Moutebouti, avaient lancé une offensive sur les éléments des FRDC. Dans les hauts plateaux de Minembwe. Depuis, les FRDC ont lancé une chasse à l'homme contre ces éléments insurgés. Ces opérations se poursuivent, mais la 10e région militaire se déclare disposée à recevoir tout insurgé qui voudrait rejoindre le centre de brassage sans condition. On écoute le général Sylvain Chikwej au micro de Astrid Mujinga.
Nous avons récupéré toutes les positions jadis occupées par les insurgés. Ils sont en débandade par groupe de 10, de 8 dans des brousses là de Minembwe. La poursuite continue. Il y a 2 d'abord capturés à Minembwe, 4 capturés à 35 km au Vira, 9 capturés sur la plaine de la Ruzizi qui voulaient traverser pour le Rwanda. Leur leader donne des conditions. Je dis non, pas des conditions. S'ils veulent se rendre, qu'ils se rendent, mais sans aucune condition. Ils sont en train de négocier avec la MONUC par l'intermédiaire du chef de bureau politique auprès de son excellence M. Swing. C'est lui qui m'informe de leurs contacts qu'ils ont pris.
Nous venons d'apprendre qu'un groupe d'insurgés commandé par le colonel Moukalaï est arrivé ce mardi dans la matinée à Uvira en provenance des hauts plateaux de Minembwe. Il s'était rallié depuis 2 semaines au FRDC après les affrontements qui opposaient ces derniers au groupe du colonel Bisogo et Michel Rukunda. Aussitôt arrivé, le colonel Moukalaï a été reçu par le commandant ad intérim de la 109e brigade en présence de la MONUC Uvira. La situation de dernières attaques des insurgés dans les hauts plateaux a fait l'objet de leur entretien. Situation humanitaire des déplacés dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu, William Lassé Swing hausse le ton. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC la juge grave. C'était au terme de sa visite hier lundi aux déplacés des camps de Kinyandoni dans le territoire de Rutshuru. Au moins 70 000 déplacés ont fui l'insécurité dans leurs milieux respectifs et se retrouvent regroupés dans des camps de fortune autour de Rutshuru et de Kiwanja sans aucun espoir de retrouver chez eux où la sécurité persiste. William Swing recommande vivement que le gouvernement règle politiquement, mais le plus rapidement possible, la question des brigades mixées et de l'existence des groupes armés dans la région, le chef de la MONUC au micro de Sifa Maguru.
Aujourd'hui, il y a une situation humanitaire qui est grave. Il y a depuis un certain temps une forte augmentation du nombre de déplacés, du nombre de violations des droits humains et les tensions intercommunautaires. Les combats multiples ont causé un grand nombre de déplacements forcés autour de notre Kivu. Si je vous donne un exemple, depuis la crise en novembre-décembre 2006 à Saki, il y a désormais 640 000 déplacés, soit une augmentation de 40% La majorité sont dans les territoires de Rutshuru, Masisi et Lubero.
Économie, le bureau régional de la Banque africaine pour le développement inauguré ce matin à Kinshasa. L'installation de ce bureau devrait permettre de renforcer la coopération avec les acteurs du développement des deux Congos et se rapprocher de ses clients, voulais-je dire. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le président du groupe de la BAD à la cérémonie d'inauguration de ce bureau. Le président de cette institution financière africaine a par ailleurs souligné que ce bureau permettra à la BAD d'apporter un appui conseil aux deux Congos en matière de développement. D'autres raisons de l'installation de ce bureau régional avec Donald Kaberuka, président du groupe de la Banque africaine de développement. Il est au micro de René Capita.
La banque a fait ce choix stratégique en vue d'accroître l'efficacité et l'impact de ses interventions dans les différents domaines. La nouvelle représentation régionale devrait permettre une gestion et un suivi régulier du portefeuille des projets et programmes dans les deux pays des montants consolidés d'environ 500 millions de dollars américains, qui fait le deuxième en importance du guichet FAD après celui de l'Éthiopie. Son portefeuille comprend au total 16 projets dans les secteurs de l'agriculture et des infrastructures telles que l'eau et l'assainissement. C'est un portefeuille qui se caractérise par sa jeunesse et un niveau de performance exigeant, un suivi de proximité, particulièrement nécessaire dans le cas des pays dits fragiles comme les deux Congo.
À l'issue de la cérémonie de l'inauguration du bureau de la BAD à Kinshasa, un accord de don au projet eau et assainissement a été signé entre la BAD et le gouvernement congolais. Toujours dans le même registre, les opérateurs économiques du Kasaï oriental s'impliquent dans la résolution de la pénurie d'eau potable à Mbujimayi. Ils ont donné des moyens à la régie des eaux afin que celle-ci desserve la population urbaine en eau potable en cas de rupture de l'énergie électrique de la minière de Bakwanga, la MIBA. François Tshibenji nous en parle.
Plus de 10 000 dollars américains et 110 fûts de gazoil, c'est la contribution des opérateurs économiques remise hier à l'autorité provinciale à l'issue d'une rencontre de souscription pour venir en aide à la régie des Mbujimayi. Cette entreprise publique éprouve d'énormes difficultés dans l'approvisionnement de la population en eau potable. La contribution du gouverneur de province à titre personnel est de 2 500 dollars américains, suivie des commerçants, pétroliers et d'autres dons des sociétés qui opèrent dans le secteur des télécommunications, dont l'une d'entre elles a remis 100 fûts de gazoil. Selon les présidents de la commission de suivi, cette contribution des hommes d'affaires de la province a été dictée par les soucis de remédier à la pénurie d'eau sur la ville. Abesimo Kalenga précise que ces fonds ne font pas partie du budget de la régie des eaux. Ils constituent une caisse de crise pour l'aider à démarrer son groupe en cas de coupure de l'électricité de la MIBA. Du côté de la régie des eaux, le chef réseau Mbujimayi déclare que son entreprise a besoin de 4000 litres de carburant par jour pour faire tourner les générateurs pendant 10 heures en vue de desservir la population urbaine en eau potable. François Tshibenji, Mbujimayi, Radio Okapi.
En santé, la situation sanitaire est inquiétante dans la carrière d'or dénommée Kamabele. C'est à 40 km au sud de Ouacha, territoire à plus de 800 km au nord-est de Kisangani. Selon le médecin chef de zone de santé qui est revenu de cette contrée la semaine dernière, au moins 5 personnes sur 20 malades sont décédées de cette maladie. Dr Jeff Itama affirme que les victimes ont souffert de la méningite suite aux mauvaises conditions hygiéniques. Il propose la fermeture du camp et l'amélioration des conditions sanitaires. Il a été joint au téléphone par Dorcas Kankou.
Il présentait des symptômes de céphalée, fièvre, raideur de nez qui puis subitement 2-3 jours après il mourait. Sur les 18 cas, il y a eu 5 morts qui sont tous morts de des mêmes symptômes. Et nous avons trouvé que c'est une méningite à pneumocoque qui a surgi là-bas. Ça a pris un caractère un peu épidémique parce que tout simplement les camps est mal entretenu. Nous avons trouvé dans un camp où habitent 400 personnes, il n'y a qu'une seule source d'eau. Et cette source d'eau n'est même pas une source d'eau parce que c'est l'eau coule, l'eau courante. Les ruisseaux sur lesquels les orpailles sont en train de travailler, que les gens sont en train de boire. Pour 400 personnes, on devait avoir 20 latrines parce qu'il faut une latrine pour 20 personnes. Au lieu de 20 latrines, on a trouvé 4 latrines seulement. Et en plus, ils habitent 6 à 10 personnes dans une île. Promiscuité, c'est justement le facteur qui favorise la propagation de cette maladie. Nous avons proposé à l'administrateur qu'on puisse fermer ce camp, qu'on puisse aménager des sources d'eau et creuser d'autres latrines.
Pour sa part, l'administrateur du territoire de Ouacha, Dieudonné Mukeyi, appuie la proposition du médecin de fermer ce camp. C'est pour des raisons de santé publique, dit-il. Un seul titre en page internationale, le Rwanda, qui a rompu ses relations diplomatiques avec la France en novembre dernier, a invité le nouveau ministre français des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, à se rendre à Kigali. Le chef de la diplomatie française va visiter le Rwanda suite à un entretien téléphonique qu'il a eu avec le chef de l'État rwandais Paul Kagame, a déclaré à l'AFP la secrétaire d'État rwandaise à la coopération régionale. La levée des mandats d'arrêt internationaux lancés par le juge antiterroriste français Jean-Louis Bruguière contre 9 personnalités rwandaises devraient se trouver au centre des discussions, a dit cet officiel rwandais.